BFM Business, la parole aux entreprises qui recrutent. Le club Média RH, Alexandre Lichamp.
Bonjour, bienvenue. D'abord, bien sûr, tout nouveau pour cette nouvelle année 2020. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter ? Santé, bonheur, prospérité, ça paraît banal. Mais j'ai envie de dire, c'est dans cet ordre-là, pour nous, la signification de 2020. Et on vous le souhaite vraiment sincèrement. Voilà, ça c'est pour les vœux. On vous les a souhaités avant Noël. On vous les souhaite à ce retour. C'est notre première émission de l'année, véritablement. Avec aujourd'hui, à l'inverse de l'habitude, bon, on va pas forcément vous donner des tuyaux, et j'ai envie de dire de vous orienter vers des entreprises qui recrutent. On va commencer l'année par de la réflexion. Et ça tombe bien parce que nous avons beaucoup de personnalités qui vont nous aider à réfléchir au travail déjà en 2020 et dans les années à venir. À commencer par Dominique Turc, qui est président fondateur de l'Institut Boost Zone. Il est enseignant à Sciences Po et expert en post-digital. Ils sont pas très nombreux, donc on peut préciser qu'il est un des numéro un. Et surtout, notre invité pour travailler justement à l'ère post-digital. Quel travail pour 2030? Voilà, on se projette sur la dizaine d'années qui arrivent bientôt. Qu'est-ce qui va se passer? Quels sont les emplois qui vont rester, ceux qui vont disparaître? C'est une question classique, mais pas que ça. Comment va-t-on travailler, etc., etc. On a la chance d'avoir un grand chercheur et un expert dans ce domaine. Toujours dans cette première partie, nous sommes ravis de recevoir Yves Hinekint. Je ne sais pas si c'est comme ça qu'on doit le prononcer. Il est directeur d'un groupe d'école. C'est tout nouveau, il vient à peine de recevoir ses galons. Directeur du groupe d'école Thalys, un peu comme le train. Et nous allons en savoir plus sur l'alternance. C'est un sujet qui nous passionne. Alors comment trouver des contrats? Il a bien sûr tout à nous dire là-dessus. En deuxième partie, vous le savez, on termine toujours par la start-up qui cartonne et qui recrute. On recevra Ségolène Moutarde, qui est cofondatrice de Team Starter et qui est une des lauréates des trophées Média RH qui ont eu lieu en novembre dernier pour l'année 2019, et on est ravis de la recevoir. Elle recrute, elle continue de recruter, bien sûr, et elle cartonne. Enfin, on recevra également Walid Atroubi, qui lui est directeur de AS Paris. C'est un cabinet de conseil en recrutement avec une enquête compétences 2019. Ça tombe bien, je répète, on est dans une émission très soft. On va pas aller dans le dur, dans les postes à pourvoir. On va rester sur la réflexion, et ça tombe bien. Et c'est parti tout de suite pour notre invité numéro 1. On retrouve Dominique Turc.
BFM Business, le club Média RH, l'invité témoin.
Bonjour professeur. Bonne année, tous mes voeux personnels vers vous, et merci d'être avec nous pour démarrer cette année. Alors je disais que on est ravis de vous recevoir pour ce livre qui est tout chaud, hein. Travailler à l'ère post-digital, quel travail pour 2030? Bon, c'est à la fois un état des lieux et bien sûr une projection sur l'avenir. Je disais que vous visez la dizaine d'années à venir, et c'est passionnant parce qu'on y trouve beaucoup de questions, beaucoup de réponses à des questions, et c'est ordonné d'une manière très pratique et très concrète. Alors, vous parlez de la révolution permanente du travail. Nous, on en parle ici dans cette émission, oui. Bien sûr, le club Média RH. Quel mot d'introduction avez-vous envie de faire pour à la fois démarrer l'année avec nous et démarrer cette émission?
D'abord, je pense qu'il faut arrêter de parler du digital. C'est pour ça que j'ai appelé mon bouquin le post-digital. Ouais.
Mais vous en parlez quand même, vous citez le mot digital.
J'en parle quand même parce que c'est un peu comme si on parle de l'électricité. En fait, ouais, on n'en parle plus de l'électricité, parce qu'elle est partout. Hein. Vous ne diriez pas, par exemple, qu'un ordinateur, c'est de l'électricité, parce que c'est devenu normal. En réalité, le digital...
Je suis d'accord avec vous. On est passé à autre chose, faut arrêter.
On est passé à autre chose. Ben, le digital, c'est pareil.
On est passé à autre chose.
Il est partout.
Voilà.
Ça, c'est très important. Ça veut dire qu'on ne peut pas faire quoi que ce soit sans avoir une partie digitale.
Tout à fait.
Mais arrêtons de parler du digital. Ce qui compte, c'est ce qu'on fait avec.
Qu'est-ce qu'il faudrait dire, alors?
Alors, moi, je dis post-digital. Après, ce qu'il faut dire, c'est... En fait, c'est ne pas parler du contenu digital de n'importe quel métier, mais parler des métiers et comment est-ce qu'ils vont être transformés. Alors, par exemple, vous avez aujourd'hui des technologies qui sont en train de transformer beaucoup, beaucoup de métiers. L'intelligence artificielle, c'est pas du digital, l'intelligence artificielle. Elle utilise les instruments digitaux, et notamment
les ordinateurs. Bien sûr.
Tout à fait. Mais c'est autre chose. C'est d'abord des mathématiques, de la probabilité, de la statistique, des algorithmes d'approximation, etc.
Et ça, c'est du post-digital.
Ça, c'est du post-digital, ouais, complètement. Ouais. Là, pour comprendre ce que ça veut dire, notamment entre intelligence artificielle et digital, il faut pas oublier quelque chose. Le digital est quelque chose d'exact. C'est-à-dire que quand vous mettez...
C'est des mathématiques.
C'est, c'est des algorithmes, informatiques. C'est-à-dire que, par exemple, un tableau Excel, hein, en fait, n'importe quel digital, c'est un gros tableau Excel, hein, vous mettez un chiffre dans une place, un autre chiffre dans une autre case, et puis vous demandez à une troisième case de faire la somme. Mmh. La somme sera toujours exacte, si vous n'êtes pas trompé en mettant les données, d'accord ? Mmh. En intelligence artificielle, c'est de l'approximation. C'est-à-dire que sur des millions de données, ce qu'on appelle le big data en règle générale, l'intelligence artificielle va aller chercher des probabilités, des possibilités pour vous aider à prendre des décisions.
Alors, c'est extrêmement important. Première question, bien sûr, elle est logique, elle est dans votre bouquin, Dominique Turc, c'est est-ce que l'intelligence artificielle va détruire le travail et dissoudre la société ?
Alors, vous avez
on a dit ça pour le digital, hein, je le rappelle, ouais. En début du siècle, au début de ce 20e siècle, quand l'Internet est venu à fond, on s'est tout de suite posé la question, on a dit ça va tuer les emplois.
On dit ça à chaque fois qu'une technologie arrive. Ouais, hein, les canuts, ouais. C'est pas d'hier non plus. Hein. Bon, donc effectivement, on peut penser qu'une nouvelle technologie va détruire certains emplois. Alors d'abord, c'est très rarement vrai. Ce qui se passe avec une nouvelle technologie, c'est qu'elle peut déplacer des tâches, pas forcément des emplois. C'est pas du tout la même chose. Hein. Il y a effectivement le comptable...
Un déplacement des postes, un déplacement des emplois.
Un déplacement des tâches l'intérieur d'un
prenons
emploi,
un exemple,
d'une
prenons
fonction.
Un exemple.
Ben, le comptable qui autrefois faisait des sommes...
Des colonnes à la main,
un jour il a eu une machine à calculer. Bon, ben, là, le fait même de faire les colonnes, ça fait qu'il a gagné du temps ou une partie de cette tâche a disparu.
Après la machine à calculer, depuis le digital, il a le tableau Excel, comme vous le disiez.
Aujourd'hui, il a un tableau Excel très sophistiqué. D'accord. Il a même, aujourd'hui, grâce à l'intelligence artificielle, des gens qui envoient leurs notes
de frais.
Ça, c'est la nouvelle étape. Des gens qui envoient leurs notes de frais. Vous avez une intelligence artificielle qui reconnaît automatiquement ce qu'il y a sur la note de frais et qui le fait entrer dans la note de frais du collaborateur. Donc le comptable, il n'a plus à saisir les notes de frais, par exemple.
Oui. Mais il y a toujours un comptable. C'est ce que vous voulez dire.
Il y aura toujours un comptable. Il y aura toujours beaucoup de choses à faire. Par contre, certaines tâches du comptable vont disparaître et de nouvelles tâches vont arriver. C'est-à-dire que la fonction, par exemple, de conseil qu'a un comptable par rapport à ses clients, elle est de plus en plus complexe.
Alors vous dites qu'il faut arrêter de parler du digital. Je parle d'emploi, hein, on est là dans le Club Média RH, on parle de management, d'emploi. Ça y est, ça c'est fait, c'est ce que vous dites. Hein. En gros, pratiquement ou quoi l'étape est passée, on peut dire ça.
Oui, disons qu'on est tellement dans l'étape qu'effectivement, c'est plus à regarder en termes de stratégie. C'est à regarder en termes d'opération. Il y a encore beaucoup d'entreprises qui n'ont pas terminé leur digitalisation.
Mais pratiquement, hein. Pratiquement
mais
tout le monde s'est mis dedans.
S'ils ne sont pas dedans, ils sont morts. C'est-à-dire qu'il faut qu'ils aient fait leur digitalisation.
C'est un peu tard,
très tard. Donc c'est ça que je veux dire.
Alors,
ça ne veut pas dire qu'elle est finie.
Est-ce que, au passage, Dominique Turc, tous ces cabinets de conseil en digitalisation, finalement, ça fait plus d'une dizaine d'années, on est en 2020, ça fait 20 ans. Est-ce qu'ils ne vont pas avoir des problèmes, justement, dans les années à venir ?
Non, parce qu'il y a encore
tout est pratiquement fait.
D'abord, il y a encore pas mal de travail à faire. Et puis, il y a quelque chose d'un petit peu subtil qui va arriver. Ça va être la dédigitalisation.
C'est-à-dire
qu'il y a des tâches qui ont été tellement digitalisées qu'aujourd'hui, en fait, elles sont contre-productives. Regardez le nombre de personnes qui en ont ras-le-bol quand ils arrivent sur un site internet ou sur un téléphone de se trouver face à un robot, alors qu'ils ont envie d'être face à une personne, ils ont besoin d'un contact humain. Il y a un certain besoin de dédigitalisation qui est déjà en train d'arriver, parce qu'à force de digitaliser, principalement pour réduire des coûts d'ailleurs, on a oublié qu'il y avait des personnes. On a oublié qu'on a besoin d'un contact humain. Mon pari, c'est que le contact humain va devenir un nouveau luxe. C'est-à-dire qu'on va avoir besoin d'offrir du contact humain à ses consommateurs pour que ceux-ci se trouvent dans une situation humaine.
À votre page 149, chapitre 2, partie 2 plutôt, vous posez les questions. Quel avenir pour le travail ? Je donne les premiers éléments de réponse que vous proposez. Peut-on prédire que sera le travail dans 10 ans ? Vous dites non. Dans 20 ans, non plus. Dans 30 ans, non plus. Vous n'êtes pas un magicien.
Non. Non, en fait, il faut. C'est un peu étrange quand on cherche à travailler sur le
futur.
Pourquoi ?
Parce qu'on se trompe.
D'abord,
le passé
toujours
nous a montré qu'on s'était trompé.
Ça, c'est clair. On se trompe toujours. Mais il y a deux choses qui se passent. Une, il est impossible de prévoir ce qui va se passer vraiment dans 5 ans ou dans 10 ans. Ok. En même temps, il est tout à fait possible de prévoir que certains éléments, certaines révolutions technologiques vont avoir un impact.
C'est ce que vous appelez les nouvelles caractéristiques de l'exercice du travail.
Oui, tout à fait.
C'est-à-dire les statuts, les temps, le lieu et les outils. Tout ça va changer. Alors, quelle est votre vision ? Ça nous intéresse.
Beaucoup de choses vont changer. Moi, ce que j'essaie de comprendre, ce sur quoi je travaille aujourd'hui, c'est les nouveaux éléments qui vont changer notre relation au travail. Bon, l'intelligence artificielle, on est un, il faut pas le négliger.
Non, on est dedans, ça y est, on est dans cette étape-là.
On n'est pas encore, on est dans le digital, on n'est pas encore dans une société où l'intelligence artificielle a pris toute sa place. Attention.
On est dedans au début.
On a commencé. Vous allez avoir une autre révolution très importante au cours des prochaines années, qui est l'arrivée des neurosciences. C'est-à-dire qu'on va commencer à mieux comprendre comment les neurosciences nous permettent de mieux nous former, d'abord. Au lieu de sortir des vieux schémas de formation, on en parlait tout à l'heure, on va entrer dans des nouveaux schémas de formation. On va entrer dans une nouvelle réflexion sur ce qu'est la prise de décision. Les neurosciences commencent à nous montrer qu'on est bourré de biais décisionnels. Super ! On aura probablement moins de biais décisionnels.
Alors, fragmentation du travail, pour être concret, c'est ce que vous annoncez, la précarisation, quand même, vous en parlez. Je continue. C'est quoi la néo-taylorisation ?
La néo-taylorisation,
il y a un petit paragraphe là-dessus.
La nouvelle façon de diviser le travail.
Ça va arriver.
Ben, on y est déjà en partie, ça va continuer.
Exemple concret ?
Ben, le fait de faire par d'autres des tâches qu'on faisait nous-mêmes à l'intérieur.
Oui.
L'externalisation. Exemple, aujourd'hui, vous avez tout un tas d'entreprises qui externalisent la relation avec leurs clients. Avec leurs fournisseurs. Résultat, vous avez des systèmes hyper complexes qui sont en train de s'imposer aux fournisseurs, alors qu'ils n'en avaient pas besoin avant et que l'entreprise était capable de le faire. Bon.
Je continue à citer travail en essaim, le temps partiel et les multi-jobs. Les multi-jobistes, vous les appelez. Multi-jobistes qui vont progresser. Et enfin, à propos de la modification du temps et de l'espace, vous posez la question, est-ce que les start-up ne sont pas finalement des précurseurs? Est-ce que c'est pas elles, ces start-up, les dirigeants de ces start-up, ces entreprises, ces nouvelles entreprises qui nous montrent le chemin?
Alors,
la réponse, visiblement, est oui.
Elle est oui, elle est non.
Ah.
Elle est oui parce qu'effectivement, les start-up sont en train d'inventer des nouveaux modes de travail. Par exemple, le travail en essaim dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire faire travailler des gens qui n'ont pas le statut dans l'entreprise, mais qui peuvent être extérieurs, dans très nombreux cas.
Oui.
Aujourd'hui, pour une start-up, l'idée, c'est d'avoir le moins de salariés possible et d'en avoir le plus possible à l'extérieur. Donc ça, elle nous montre un certain chemin. Pas toujours facile, socialement, parce qu'il y a des gens qui n'aiment pas tellement se retrouver à l'extérieur de l'entreprise et qui préféreraient être à l'intérieur. Mmh. Elle nous montre de nouvelles façons d'organiser le travail, des nouvelles façons d'organiser les lieux de travail. Donc oui, il y a plein d'éléments précurseurs sur lesquels il faut regarder. Attention, elle n'offre pas non plus la sécurité de travail, la sécurité du social, la sécurité des retraites qu'offrent les grandes entreprises.
Oui.
Donc, une des vraies questions qui se posent aujourd'hui, il n'y a pas la réponse encore, c'est les grandes entreprises vont-elles être capables d'offrir quelque chose à leurs jeunes candidats qui soit aussi attractif ou presque que les startups, tout en offrant
c'est joli,
quelque chose.
Aussi.
Oui, c'est joli, start-up.
J'ai ouvert une start-up.
Tout en offrant quelque chose de plus. Ouais. Parce que quand vous regardez les gens qui travaillent dans des start-up ou qui travaillent en essaim, à un moment, ils sont un peu frustrés. Ils se disent, qu'est-ce qui va se passer de mon avenir? Surtout quand ils commencent à avoir des enfants, un logement et des dettes.
Alors, mon cher Dominique Turc, vous restez avec nous, c'est passionnant. On pourrait faire 3 heures avec vous, mais vous reviendrez. Mais vous allez rester. On reviendra tout à l'heure sur des exemples concrets que vous donnez dans votre livre. Travailler à l'ère post-digital, c'est passionnant. Et on va vous interroger sur des emplois concrets. Selon vous, qu'est-ce qu'ils vont devenir? Vous en avez parlé tout à l'heure, justement, le travail, la nouvelle, votre vision, ce que vous nous annoncez, le travail, on ne sera pas forcément dans l'entreprise. C'est ça, d'une manière générale. Et puis, l'alternance, c'est peut-être une solution. Qu'est-ce que vous en pensez?
Moi, je pense que l'alternance est sous-estimée en France, donc on va en parler un petit peu plus, mais c'est une excellente solution.
Eh bien, ça tombe bien, puisque notre invité suivant, il va être ravi, Yves Innocent, c'est son job aujourd'hui, et depuis quelques jours, il vient d'être nommé directeur d'un groupe d'école qui s'appelle Thalys, c'est une plateforme d'alternance. Eh bien, il est le mieux placé pour en parler. Voici notre rubrique Solutions RH.
BFM Business, le club média RH. Solutions RH.
Oui, il y a tout à dire sur l'alternance, si vous me disiez. Alors bonjour, d'abord je suis ravi de vous retrouver. Mais vous êtes déjà venu, non? On a déjà eu l'occasion
de... On s'est déjà croisé.
Je suis ravi de vous recevoir. Bonne année également à vous
aussi.
Pour vous et vos, comment dire, vos collaborateurs.
Une année de changement total. La semaine dernière, ça me permet de saluer mon équipe Opcalia, le monde où je finançais les contrats d'apprentissage.
Voilà, vous étiez patron d'Opcalia.
Tout à fait. Et le monde d'aujourd'hui où j'intègre à la
direction. Vous avez quitté Opcalia et là, vous changez de casquette.
Depuis lundi, je salue mon équipe Thalys pour justement être du côté de la pédagogie et peut-être des emplois et des compétences de demain que Dominique évoquait.
Alors, vous êtes nommé directeur du groupe d'école Thalys. Tout à fait. Rien à voir avec la SNCF, c'est pas Thalys.
Aucun rapport.
C'est pas le train.
J'espère qu'on va aller aussi vite, mais aucun rapport. Et en fait, je vais plutôt intervenir aujourd'hui au titre de l'association qu'on a créée à plusieurs, qui s'appelle WALT.
Alors, on va en parler. Alors, vous avez donc créé, expliquez-moi, vous avez créé une association, c'est elle la plateforme d'alternance.
Tout à fait, WALT, exactement.
Et la question, il y a énormément de demandes aujourd'hui, c'est une espèce de... Tout le monde s'engouffre dans ce sujet.
Il y a une réforme, il y a une loi, Pénicaud, qui nous invite à réfléchir à l'apprentissage et au contrat de professionnalisation. Et c'est vrai que par rapport à ce qui a été évoqué par le professeur, et à mon avis, il y a plein de choses à faire. Et donc, en l'occurrence, c'est d'abord à l'origine une histoire de copains. Quand je dis de copains, c'est 6 réseaux qui représentent 20% de l'alternance en France, que sont les Compagnons du Devoir, les Maisons Familiales Rurales, l'AFTRAL dans la logistique, le groupe Thalys que vous avez évoqué, le groupe IGS et l'enseignement catholique à travers sa structure qui s'appelle Excellence Pro. 6 réseaux qui se sont liés un jour. Mais c'est vrai que quand on parle de compétences, d'emploi, d'évolution post-digitale, de temps en temps, on regarde uniquement sa manière de faire la pédagogie. Et la question qui était simple, c'est, par exemple, moi, je refuse 2000 jeunes qui ne correspondent pas à mon savoir-faire.
Alors, ce qui est intéressant, on va partir du départ, si vous en êtes d'accord.
Tout à fait.
Yves, le point de départ, c'est un chiffre. 80%, dites-vous, des jeunes en alternance, ça nous intéresse, ça nous interpelle, trouvent un emploi dans les 6 mois après leur formation. C'est pas un exploit, c'est une réalité.
C'est la vraie vie.
C'est la vraie vie. Ouais. Mais c'est énorme, 80%.
Et encore, je pense qu'on peut faire plus.
On peut faire plus.
Alors, c'est la voie royale pour accéder à un emploi.
Avant, c'était une voie de garage. On disait l'alternance quand on avait un gamin.
C'est fini, je suis d'accord.
Non, mais je suis d'accord.
Mais il y a 30 ans, début
janvier 2020.
C'est fini.
Aujourd'hui, on dit que c'est une voie royale.
Mais quand je dis c'est génial, alors je vais peut-être pas non plus exagérer le ton, mais quand je dis c'est génial, prenez un jeune. La formation est payée par son OPCO, donc opérateur de compétences, donc par l'entreprise indirectement. Les coûts de scolarité sont pris en charge. Il a une rémunération en pourcentage du SMIC.
Ouais.
Il a une expérience dans l'entreprise. Vous vous mettez à la place de l'entreprise au bout d'un an ou deux en alternance. L'entreprise, si le jeune a fait affaire, on le garde.
Bien sûr.
Et donc, je vois aujourd'hui des DRH qui commencent à se dire, entre quelqu'un qui a suivi la voie classique, formation initiale, 100% en présentiel, et quelqu'un qui a suivi la voie par l'alternance, contrat d'apprentissage ou contrat de professionnalisation, je commence à m'intéresser un peu plus aux jeunes. Parce que quelque part, il a une expérience professionnelle dans l'entreprise.
Ça rejoint un peu. Vous dites c'est la voie royale, c'est la voie de l'excellence même. Je veux dire, on est passé, je répète, il y a à peine 10 ans, de la voie de garage où on disait qu'est-ce qu'on va faire de ces jeunes, on ne sait pas quoi faire d'eux, vers la voie de l'excellence. Qu'est-ce que vous en pensez? Je m'adresse à l'homme qui enseigne à HEC.
J'enseigne pas à HEC, j'enseigne à Sciences Po.
Excusez-moi, à Sciences Po, vous êtes diplômé d'HEC, pardon.
Et j'ai enseigné à HEC assez longtemps. Je pense que il y a une prise de conscience qui est en train de s'établir chez tous les jeunes, que le passage par le monde du travail, par l'alternance par dans les grandes écoles, ce qu'on appelle l'année de césure, est essentiel, pas seulement pour trouver du travail, mais pour se développer eux-mêmes, pour avoir une vraie personnalité qui va entrer dans le monde du travail. Je suis surpris de voir qu'un certain nombre de jeunes dans les grandes écoles aujourd'hui doublent leur année de césure. Ils disent finalement j'ai fait un an, j'en veux deux.
Tiens, c'est marrant.
C'est intéressant.
Ouais, ouais.
Alors, pas tous, il se passe quelque chose. Ils se disent.
Pro capitalisation financière et je réinjecte ce que j'ai gagné.
Vous êtes d'accord?
Complètement d'accord.
Sur ce constat.
On voit une évolution de l'appréciation du sujet par les jeunes. Avant, c'était le système classique. Si on parle des écoles de commerce, prépa 2 ans, 3 ans de programme grande école. Aujourd'hui, on est sur le bachelor. On est sur une année de césure. Donc, je m'arrête en 3e année. Ça m'a plu. Je me fais une 2e année à l'étranger. Voilà. J'ai un peu d'expérience. J'ai un peu d'argent pour payer mes études. Ce qu'on évoque peut-être pas assez souvent, c'est que j'ai eu des jeunes de temps en temps qui m'ont dit « moi je veux faire alternance ». Mais je dis « mais c'est pas un métier alternance, c'est un moyen financier de financer des études ». Oui monsieur, c'est ça. Et WALT, l'association.
Alors revenons à WALT, parlons-en. Oui. Vous dites une thèse que force sur tout le territoire, donnez-nous des détails.
Des détails entre guillemets, c'est « on est plus fort à plusieurs », donc ces 6 réseaux ont décidé de mettre des moyens en commun pour créer une plateforme. Alors peut-être que ça va pas plaire à Dominique, un chatbot. Un chatbot qui donne quand même une orientation à un jeune.
C'est quoi un chatbot?
Un chatbot, c'est un petit robot.
Un français, ça serait quoi?
C'est un robot post-digital, si je reprends le livre, qui répond à 80% des questions d'orientation du jeune. Alors, mais ce qui est intéressant, des parents. Moi, je vois des parents se connecter et qui cherchent à comprendre c'est quoi un contrat d'apprentissage, un contrat de professionnalisation. Et les jeunes, ce dont ils ont besoin, c'est pas la formation.
Alors,
ils veulent savoir quels sont les métiers derrière.
Le chatbot, WALT.
WALT.
rien à voir avec Walt Disney, non? C'est pas du rêve.
W comme travail, ALT comme alternance. Donc, si on peut vendre du rêve au titre de la pédagogie,
vous avez raison.
Faisons-le.
Un bot, donc, vous dites, qui écoute, oriente, accompagne. L'orientation, les jobs, information, formation.
Tout à fait.
Ça représente combien de vous
connexions.
Êtes présent au niveau du territoire? Oui,
alors,
les connexions, c'est
on
quoi?
On est présent nationalement. On a un message, donc MSN Messenger, on a une plateforme. On est présent donc sur walt.community, donc sur Internet. On a 30 000 jeunes à peu près connectés, un réseau sur Facebook de 6 à 10 000 jeunes qui parlent entre eux des bienfaits de l'alternance. Mm-hmm. On a 28 000, bientôt 30 000 organismes de formation et formations présentés. Et on a un intégrateur de job board, parce que l'idée n'était pas de refaire, puisque les choses existent déjà, un job board. On a un intégrateur de profil de poste qui atteint aujourd'hui 20 000. Donc on est en train de faire naître une communauté de jeunes qui se parlent entre eux, d'entreprises qui se parlent entre elles. On est en train de faire vivre quelque chose qui jusqu'à présent n'avait pas été fait.
Alors, je voudrais, on a fait réagir il y a quelques minutes Dominique Turc sur ce sujet. Votre sujet est passionnant, l'alternance, moi j'y crois à fond, bien sûr. Justement, à propos d'alternance et à propos d'emploi de demain, parce que l'on parle des jeunes, je voudrais, pour terminer cette première demi-heure, revenir sur votre livre que j'ai sous les yeux, « Travailler à l'ère post-digitale, quel travail pour 2030 ?» Et je vais directement dans les conclusions, Dominique. De toute façon, il faut lire, aller acheter ce livre qui est... On n'a pas dit l'éditeur, c'est chez Duno. Hein. Dans les conclusions, prenons des exemples concrets, et vous le faites d'ailleurs, et c'est très bien. Vous parlez des employés de bureau et d'assurance. Hein. On ferme aujourd'hui des agences et les clients préfèrent utiliser Internet pour leurs opérations. Qu'est-ce qui va arriver pour ces gens-là? Les effectifs des employés de banque et d'assurance sont passés de 356 000 en 86 à 221 000 en 2016. Une diminution de 39%.
Oui, 39% en 30 ans.
Oui.
Donc en fait, c'est pas tellement par an. Bon, et en réalité, il faut regarder...
Ça fait une moyenne de 4 500, dites-vous. Voilà, c'est pas énorme.
Attends, oui, vous avez c'est pas gigantesque. Bon.
Mais vous dites qu'en même temps, ils risquent de ne plus compter d'employés entre 2038, d'ici 2038, 2051.
C'est pas moi qui dis ça. C'est un centre de recherche que je cite ici. Oui. Moi, je pense que les boîtes d'assurance vont conserver énormément d'employés et vont même en mettre d'autres.
Ce que vous disiez tout à l'heure, le service humain.
Alors, le service humain, mais aussi les enjeux.
Bien sûr.
C'est-à-dire qu'on va avoir tout un ensemble d'enjeux dans le monde de l'assurance, qui vont apparaître au cours des prochaines années.
Et toujours, pardon de vous couper, mais toujours rapidement, il y a encore 2 minutes, mais on pourra y revenir tout à l'heure, vous évoquez également d'autres professions, les comptables.
Ouais.
Les comptables. On annonce aussi, et c'est ce que vous dites aussi régulièrement, la fin des employés en comptabilité, une extinction entre 2041 et 2056, c'est pas vous qui le dites, mais des logiciels intelligents, on y est, l'intelligence artificielle, dédiés pour ainsi effectuer les tâches comptables, vous y croyez? Alors, est-ce que dans ce domaine-là, l'humain va aussi persister?
Alors, d'abord, c'est pas moi qui le dis. Moi, je dis qu'au contraire, ces
toujours.
Estimations sont largement surestimées. Il va rester beaucoup de comptables.
Oui.
Il va pas forcément rester les mêmes. Comme on a supprimé les gens qui faisaient des sommes, il y a un certain nombre de tâches.
La machine a pris le relais.
Et la question ici pour les comptables, c'est quels sont les services qu'ils vont apporter.
Les métiers évoluent, compétences évoluent. Il faut former les jeunes de manière différente. On est bien d'accord.
Le métier de comptable devient de plus en plus complexe. Il suffit de demander à n'importe quel comptable, il va vous dire ça. L'assistance aux entreprises, mais aussi aux individus. Quand vous avez un auto-entrepreneur, il a besoin de l'assistance d'un comptable, hein, parce qu'il n'arrive pas à s'en sortir tout seul.
Donc vous, c'est la raison pour laquelle, sur ce sujet, vous concluez en disant « La comptabilité n'est pas un métier condamné ». Et on termine cette première demi-heure, toujours dans votre livre, sur l'histoire des secrétaires. Alors, le cas des secrétaires, c'est passionnant, parce que le nombre de secrétaires est passé de 756 000 en 86 à 560 000 en 2016, ça sont des chiffres officiels, donc une diminution de 5 125 par an. Qu'est-ce qui a supprimé les secrétaires? C'est toujours pareil, d'abord le digital.
Il y a une bonne partie du digital, dans le sens où la secrétaire qui prenait les courriers...
Le métier a changé.
Le métier a changé. Aujourd'hui, la secrétaire, elle existe un petit peu moins, et c'est l'assistante qui se développe. Alors, dans certains cas, on se demande d'ailleurs pourquoi il n'y en a pas. C'est-à-dire, quand vous voyez les tâches que font certains dirigeants aujourd'hui, vous vous dites, est-ce qu'il vaut vraiment ce qu'il est payé pour faire certaines des tâches qu'il fait? Il aurait fait peut-être mieux de passer par une assistante,
ouais,
qui ferait son travail avec un petit peu plus d'intelligence.
Je ferai remarquer au passage, vous savez qu'on n'a pas le droit, Remarquez au passage qu'on ne doit pas donner de sexe à un métier. On doit dire assistant ou assistante. Mais naturellement, on dit secrétaire, oui, on pense à une femme, et assistant, vous dites assistante.
Absolument. Vous avez raison. Je me trompe. J'aurais pas dû
dire
assistante.
Non, vous ne trompez pas. C'est révélateur, effectivement, d'une société.
C'est révélateur, alors qu'effectivement, le métier n'a aucune raison d'être genré.
Les secrétaires et assistants, voilà, ou assistantes humains, voilà, ont un bel avenir, mais certes, il leur faudra développer de nouveaux savoir-faire. C'est ça la conclusion.
Bien sûr.
Vous restez avec nous, tous les deux. On va accueillir d'autres invités. Je disais, on ne parle pas forcément concrètement de job à pourvoir. Ce sera pour la semaine prochaine. On est dans la réflexion et ça tombe bien pour démarrer l'année. À tout de suite.
BFM Business, la parole aux entreprises qui recrutent. Le Club Média RH, Alexandre Lichamp.
Le Club Média RH, la parole aux entreprises qui recrutent, c'est ce que propose notre générique. Mais aujourd'hui, comme je vous l'ai dit au tout début de l'émission, il n'y en a qu'une qui va proposer des postes. Elle est déjà dans le studio, dans cette deuxième partie. C'est la sympathique Ségolène Houtard qui est avec nous, qui est la cofondatrice de Team Starter et lauréate des Trophée Média RH de novembre dernier. Donc elle a des postes à pourvoir elle aussi. Vous allez voir, c'est intéressant pour vous, j'en suis sûr. Vous serez nombreux à postuler. Avant ça, dans quelques minutes, nous allons interroger Walid Atroubi. Pardon, je cherchais votre nom. Walid Atroubi, vous êtes directeur de ACE Paris. On va parler des compétences, toujours, et ça tombe bien, puisqu'on vient de parler, il y a quelques minutes, de l'alternance. On va parler des compétences, l'adéquation avec les compétences, tout ça, ça tombe bien. Vous venez pour une enquête compétences 2019. Mais je rappelle que sont toujours dans notre studio nos autres invités de la première partie, à commencer par Dominique Turc. Rebonjour, Dominique Turc. Vous êtes président fondateur de l'Institut Boost Zone, enseignant à Sciences Po et expert en post-digital. Pour votre livre passionnant, Travailler à l'ère post-digital, je vous le conseille, pour bien comprendre ce qui va se passer dans les 10-20 prochaines années au niveau de l'emploi et bien comprendre l'analyse qui est, je trouve, excellente. Je vous le conseille, vraiment, c'est chez Dudo. Et puis, toujours avec nous, Yves Innekent.
Innekent. Un jour, peut-être.
Ça mousse.
L'alternance, on va la faire mousse.
L'alternance qui cartonne, effectivement. Et on est content de vous avoir écouté. Vous restez avec nous. Vous allez pouvoir réagir à tout ce qui suit. Mais je vous propose tout de suite, donc, d'aller vers le décryptage RH. C'est le nom de cette rubrique avec Walid Atroubi qui va nous parler de ACE. C'est tout de suite.
BFM Business, le Club Média RH, décryptage RH.
Bonjour Walid.
Bonjour.
Et je suis ravi de vous rencontrer. Bienvenue au Club Média RH. Alors, vous êtes. C'est un cabinet de conseil, c'est ça ?
Un cabinet de conseil en recrutement.
ACE, H-A-Y-S.
Exactement.
Je connaissais Isaac ACE, mais c'est d'une autre génération.
Non, exactement.
Un musicien, c'est pas lui qui l'a fondé, non ?
Non.
Rien à voir.
Non, rien à voir.
Mais c'est un groupe américain ?
Anglais.
D'origine
anglo-saxonne.
Anglo-saxon, oui. Qui existe depuis combien de temps ? J'en profite pour découvrir ce que je...
Alors en fait, on a un cabinet de recrutement, un cabinet de conseil en recrutement, spécialisé par ligne de métier, et en fait, on est d'origine anglo-saxonne. On existe depuis 58 en Angleterre, et en France depuis à peu près une vingtaine d'années.
Très bien. Il y a combien de personnes en France dans ce cabinet ?
Alors, on a 650 salariés en France, et 12 000 à l'étranger.
Mais 650 en France, quand même. Vous êtes présent où ? À Paris, un peu partout ?
On est présent dans 24 villes en France, dans les plus gros bassins d'emploi.
Et le cabinet ACE, quel est son métier ? Vous disiez conseil en recrutement ?
Exactement. Spécialisé par ligne de métier, différentes lignes de métier.
Prenons des exemples.
La finance, l'IT, la pharma, enfin tous ces métiers-là qui recrutent.
Voilà, les entreprises, bien sûr, sont vos clientes.
Exactement.
Et c'est vous qui les aidez à recruter.
On Exactement.
Vous donnez un chiffre d'affaires, non ?
Non, mais en termes de chiffres que je peux vous donner, je peux vous dire que chaque année, à peu près, on détache et on trouve de l'emploi à 10 000 personnes en CDI et à 1 500 personnes par semaine en intérim.
Bravo. Donc vous avez des choses à dire par rapport, j'imagine, on va y venir après, sur l'alternance.
Exactement.
Est-ce que c'est quelque chose qui... On a envie de savoir, pour les cabinets de recrutement, c'est les cabinets de conseil en recrutement, qui sont au contact des entreprises, est-ce que l'alternance, ça commence à bouger, on va en parler après, mais vous êtes là parce que vous nous avez apporté un rapport annuel, c'est une sorte d'enquête.
Hein. Exactement.
Un rapport annuel, c'est un index mondial des compétences 2019. Alors c'est passionnant, on est en janvier 2020. Finalement, 2019, selon vous, et cette enquête est sérieuse, j'en suis sûr, elle commence par le plan mondial. Première info que j'ai trouvée, c'est une stagnation des salaires.
Exactement.
Ça, tout le monde est d'accord là-dessus.
tout le monde est d'accord dessus, et c'est assez
malheureusement,
mais c'est assez paradoxal, parce que le taux de chômage baisse dans le monde, mais les salaires, du coup, ne suivent pas et n'augmentent pas de la même façon.
Bon, je vous demande pas de nous l'expliquer. C'est pas votre...
Non, c'est pas. Je pourrais le faire,
c'est
mais
pas
c'est
votre
pas.
Rôle.
Non, je pourrais le faire, mais je pense qu'il y a une embellie l'année dernière à un certain moment
de économique,
exactement, et qui donc a contribué à augmenter les salaires. Mais on sait aujourd'hui que, par exemple, on part sur à peu près 2,2% d'augmentation quand on sait que l'inflation prévisionnelle est de 1,7. Donc une stagnation qui est mondiale et qui ne tient pas juste à la France.
Alors ça, c'est une première observation par rapport à cet index. Je vous laisse nous livrer les autres. La mondialisation va-t-elle impacterait-elle les femmes et les inégalités? Quelle est la réponse?
La réponse est oui et non. Puisque oui, d'un côté, au niveau mondial, et non parce que des réformes ont été mises en place en France l'année dernière et qui commencent à donner des résultats sur le fait de rétrécir ou de réduire, en tout cas, les inégalités de salaire.
Mais c'est quand même toujours le cas.
Toujours le cas.
Troisième constat, le marché du travail qui, selon vous, reste peu flexible, mais qui est toujours, toujours particulièrement en tension. On parle de la France.
Exactement. Alors, il est en tension parce que on constate, mais même si c'est encore une fois en France, mais c'est aussi identique au niveau mondial, c'est une inadéquation entre l'offre et la demande. C'est qu'on recherche de plus en plus de gens spécialisés, et malheureusement, ce type de compétences, on ne les trouve pas aujourd'hui. Et c'est pour ça que même si le taux de chômage en France est relativement faible sur la partie cadre, eh bien, il y a quand même un socle où on n'arrive pas à pourvoir les postes.
Les principaux enseignements, donc on peut dire ça, le taux de chômage à la baisse, malgré le taux de chômage, eh ben, les salaires ne sont pas à la hausse. Le problème mondial de l'inadéquation entre l'offre et la demande de compétences qui persiste.
Exactement.
Et enfin, je répète, hein, et enfin, l'IA et la mondialisation qui pourraient frapper plus largement les femmes. Aujourd'hui, parmi vos clients, ceux qui sont vos clients, sur quoi portent le plus de demandes? Sans déflorer, hein, sans vous demander des noms.
Non, mais enfin, je peux vous donner en tout cas les secteurs d'activité qui aujourd'hui recrutent le plus. Il n'y a pas de secret, ce sont les métiers de l'informatique, du digital, du data. Je vous écoutais tout à l'heure en parler. Et c'est forcément les métiers aujourd'hui où les entreprises ne sont pas encore assez staffées par rapport aux demandes qu'elles ont.
Vous avez entendu au début de l'émission Dominique Turc, qui est toujours dans notre studio, nous expliquer que, et on est d'accord, le digital c'est fait. Ça fait 20 ans, 10 ans, quoi, une dizaine d'années.
20 ans, là.
20 ans que les entreprises ont commencé à s'y mettre. On est arrivé à maturité. La digitalisation des entreprises, notamment des grandes et des petites aussi, c'est fait. On va passer au post-digital, c'est l'objet de votre étude. Vous êtes d'accord?
Je suis d'accord et je pense que...
On n'a plus les mêmes besoins aujourd'hui en termes de collaborateurs du digital ou bien non, on reste sur des besoins primaires?
En fait, le digital aide l'entreprise à évoluer et à grandir, mais elle n'est pas aujourd'hui le socle de l'entreprise. Aujourd'hui, le monde du travail est relativement en train de changer. On est vraiment à un tournant puisque le métier, enfin, on ne voit plus le travail de la même façon. Et quand on sait que les jeunes actifs vont représenter dans 5 ans, cette génération Y et Z, vont représenter dans 5 ans les 3/4 des actifs, il faut repenser le travail de façon totalement différente. Et on le voit par rapport à l'étude et par rapport aux préconisations qu'on peut avoir. Vous parlez de l'alternance tout à l'heure. Aujourd'hui, la France est encore très en retard en termes d'alternance. Quand on regarde nos voisins allemands, on sait qu'aujourd'hui...
On prend toujours l'exemple allemand, hein. Je ne sais pas pourquoi.
Et suisse.
Parce que d'après notre étude, et puis on le voit, ils ont... Vous disiez tout à l'heure que c'est une voie de garage. En tout cas,
non,
avant...
Non, je ne dis pas que c'est...
Non, c'était considéré comme...
qu'avant, il y a 20 ans, 30 ans...
Exactement.
On disait à un gamin, allez, on va te mettre en alternance. C'était
exactement.
La punition.
Mais bien sûr.
C'était.
Mais ça fait que quelques
c'était.
Années que finalement, on commence enfin, que les grandes écoles commencent à proposer de l'alternance à tout le monde. Et pour avoir quelques chiffres, c'est qu'en Allemagne, les 16-25 ans sont à moitié en alternance. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'ils ont un chômage qui est 4 fois moins important sur les jeunes actifs. Donc, c'est quand même aujourd'hui une préconisation qu'on doit mettre en place.
On termine votre enquête, je pense qu'on a une image là-dessus aussi, sur une note que donne votre cabinet, enfin l'enquête, au travers de l'enquête, à chacun des pays.
Oui.
Alors, cette note, avant de la montrer, c'est quoi? C'est une note qui donne quoi?
Alors, qui donne en fait la flexibilité du travail.
La
quand elle est au-dessus de 5, c'est que c'est très rigide.
La moyenne, c'est 5.
Oui.
C'est sur 10, c'est ça?
Exactement.
Et la France?
5,2.
5,2.
Exactement.
Donc, alors, comment vous l'analysez, 5,2?
Mais ça veut dire qu'aujourd'hui, on n'arrive pas à trouver des compétences à certains niveaux de postes. Donc on est obligé de chercher à l'étranger, on est obligé de former ou de revoir la politique de travail et de recrutement. Et c'est pour ça que ce qu'on préconise nous aujourd'hui, c'est un, de revoir les formations et l'alternance.
Vous dites que vous, vous proposez d'investir dans des programmes d'éducation, d'apprentissage et de la formation professionnelle. Mais ça vous fait plaisir, ça.
On va vous laisser, je pense, du boulot.
Exactement.
Mais c'est vrai, avant le plateau...
Je vois votre sourire, mon cher Yves.
On discutait aussi avant le plateau. On a tendance...
Pardon de vous avoir...
Je suis un peu senior, mais c'est juste pour compléter.
Allez.
On a tendance à imaginer la formation de nos jeunes telle qu'on l'a vécue parfois. Oui. Ce qu'on est en train d'évoquer aujourd'hui, c'est quels sont les besoins en compétences des entreprises dans 5, 10, 15 ans. Et un sujet sur lequel moi j'étais réfractaire, fut un temps, c'était le télétravail. Aujourd'hui, ça évolue. Mais je peux vous assurer que nos jeunes, qui rêvent tous de start-up, vous le savez, mais c'est du télétravail, c'est du travail à distance, c'est la journée ci, la journée là, on travaille dans un fauteuil, pas dans un fauteuil, mais ça, ça se prépare aussi. Et je vois bien, moi, aujourd'hui, en période de grève, c'est aussi l'actualité, eh ben, on fait du télétravail en alternance. On arrive à avoir nos jeunes qui sont en pédagogie inversée, qui ont un contrôle online à midi, midi et demi, et on vérifie leurs connaissances. C'est quand même aussi des solutions qu'on n'imaginait pas avant. Et ces compétences-là, c'est les soft skills.
Yves Inoxine, je profite pour rebondir et je pense et j'espère que on aura nous-mêmes, peut-être dans le cadre de l'enquête que l'on mène mensuellement, une enquête exclusive que l'on fait avec BVA sur à chaque fois des thèmes RH. Je suis sûr, j'espère que des solutions vont être trouvées pour la grève. C'est pas à nous d'en parler, on n'est pas des politiques, mais je suis sûr que cette grève là a eu des répercussions importantes pour faire évoluer le télétravail. Le télétravail.
Et
on va demander à nos amis de BVA d'enquêter là-dessus pour l'enquête de janvier ou de février. Dans les trois recommandations que fait AIS pour la France, c'est ce que je dis, un groupe international, où on vient d'en parler, investir dans des programmes d'éducation. Deuxièmement, encourager l'intégration de la main-d'œuvre issue de la diversité et ce, sous toutes ses formes.
Exactement. Aujourd'hui, on a pris l'habitude en France de recruter des gens qui viennent de la même école, qui viennent de la même formation, et finalement d'avoir des clones et de reproduire le schéma qu'on a connu. Et l'idée aujourd'hui, justement, c'est de pouvoir enrichir l'entreprise de personnes qui viennent d'endroits différents, de milieux différents, et qui vont apporter, en arrivant dans l'entreprise, une façon de réfléchir qui va être complémentaire par rapport à celle des autres.
Enfin, troisième point, vous dites encourager, enfin c'est l'enquête, vous, Aïs, vous dites encourager activement les employés à profiter des avantages du travail flexible et des opportunités d'emploi éloignées géographiquement. Là, on est mal parti, hein, parce que les Français ont cette réputation au niveau mondial. C'est pas des voyageurs, hein, les Français. Hein. Malheureusement, d'ailleurs. Et je dirais même pas des voyageurs à l'intérieur du pays.
Exactement.
Hein. Il y a un poste à Bordeaux, le gars qui est à Nantes, sauf si c'est à Saint-Tropez, mais...
Et encore que. Et c'est pour ça que, justement, aujourd'hui, on a des entreprises qui sont dans des zones un peu reculées et qui ont du mal à recruter. Et donc, l'idée, c'est justement de leur expliquer que, pour recruter, il faut proposer aussi autre chose à l'employé pour qu'il ait envie de s'y intéresser.
Alors, réaction de notre expert post-digital. Il y a post-opératoire, hein, pour si vous êtes fait opérer de l'appendicite. Et post-digital.
Ce qui est intéressant dans votre dernière remarque, c'est que toutes les villes moyennes et grandes en France, mais surtout moyennes, sont en train de travailler sur leur attractivité.
Exactement.
Comment faire pour attirer plus des jeunes, des couples avec enfants. Et il y a des vrais travaux qui... Toutes les villes s'interrogent là-dessus aujourd'hui.
Autrement dit, elles sont... Vous travaillez avec elles ?
Non, c'est pour ça que vous...
Pour certaines, oui. On est en train de passer d'une ville qu'on appelait la Smart City, qui était en fait un petit peu n'importe quoi, c'est-à-dire une ville digitale où qui me donnait à quelle heure arrivait mon bus. Franchement, j'en ai rien à faire. À des villes vraiment intelligentes, où on essaie de se dire comment les individus vont pouvoir vivre dans la ville, comment est-ce que ça va attirer des couples pour venir travailler. Si on a un qui vient, comment est-ce qu'on peut trouver du travail pour l'autre. Et là, on a un vrai levier de lutte contre ce mismatch qui est à la fois un mismatch de compétences et un mismatch de localisation.
Mais vous savez, on a souvent dans cette émission, depuis le temps qu'on l'a fait, et nous sommes convaincus, nous, dans cette émission, on apporte, on n'est pas là pour ça, on n'est que des journalistes, mais quand il le faut, de temps en temps, on le dit, on est convaincus qu'il y a tout à faire à ce niveau-là pour favoriser le déplacement des gens. Je disais que au départ les Français n'aiment pas bouger et je pense que c'est bien que les villes mettent en place des programmes pour dire si vous venez dans notre ville, dans notre région, eh ben on est prêt à vous aider à faire ça. Malheureusement, il faut passer par là. Est-ce que vous avez des exemples concrets? Allez, ça va leur faire plaisir, allez-y, puisque vous travaillez avec eux.
Non, je peux pas donner les noms des villes avec qui je travaille, c'est une question de déontologie,
nice.
mais des villes de taille moyenne, entre 100 et
Bordeaux.
300 000 habitants. Autre commentaire qui est intéressant par rapport à ça, c'est que j'ai discuté récemment avec les services de recrutement d'une grande entreprise française extrêmement attractive.
Ah.
Et elle me disait, on commence à avoir
là,
du
vous pouvez
mal.
La citer.
Non. On commence à avoir du mal à attirer des gens qui ont toutes les compétences, etc., parce qu'on est surtout, on leur offre surtout des jobs à Paris. Okay. Ben voilà. Moi, j'aimerais bien, en fait, que vous me proposiez ce job-là, mais à Bordeaux, par exemple, à Lyon.
J'étais sûr qu'il y avait Bordeaux dans ça.
Et en fait, ça, pour moi, c'est un signe très intéressant, plutôt un bon signe, hein, parce que ça veut dire que des jeunes sont en train, des jeunes, c'est vraiment des gens qui sont sortis, qui ont 25 ans, hein, des jeunes sont en train de dire, ben non, Paris, j'ai pas une envie folle, j'ai envie d'aller ailleurs.
Alors
moi, c'est
ce
nouveau,
qui,
c'est un bon signe.
Et j'espère que, et je le vois parce que je le vois autour de moi, et même dans ma propre famille, je pense qu'il y a aussi une évolution vers l'envie d'aller travailler ailleurs ou d'aider les gens à travailler en dehors de Paris, comme vous dites, oui. Je dis même en dehors des grandes villes.
Oui.
De s'installer à la campagne et de travailler. Les outils informatiques le permettent. J'ai envie de dire, je suis au fin fond de l'Auvergne ou au fin fond de la Normandie. Personne ne sait que je suis au fin fond de la Normandie parce que je sais que mon téléphone portable, mon mobile, avec Internet, je peux même être avec les doigts de pied en éventail à l'île Maurice. Personne ne saura que je suis en train de bosser au soleil.
Je pense bosser de nuit en ce cas-là parce que
décalage horaire. Mais encore que l'île Maurice, bon, il n'y a pas un grand décalage. Pardon pour l'exemple.
Mais je pense que justement, c'est propre à cette génération. Par rapport à la vision qu'elle a du travail.
Walid Atroubi, allez-y.
Exactement, et en fait, c'est la vision qu'ont ces jeunes actifs par rapport au travail et qui sont peut-être plus ouverts à la mobilité parce qu'ils veulent donner maintenant du sens à leur travail, mais aussi du sens à leur vie personnelle.
Leur propre vie,
et donc, dès lors qu'ils peuvent mettre les deux en corrélation, ils sont encore plus ouverts au fait de partir.
Et en même temps, aujourd'hui, et dans les périodes de grève, je pense qu'il va y avoir beaucoup de réflexion de la part d'un certain nombre de nos compatriotes pour se dire, attends, j'en ai marre de respirer la pollution, on n'a jamais été autant pollué d'ailleurs, dans les voitures et dans les bus et ailleurs, et qui se disent, mais après tout, j'en ai marre de cette ville, je vais aller à la campagne. J'en profite pour... Vous êtes d'accord?
Pour ceux qui peuvent, oui.
Pour ceux qui peuvent. Voilà. Il y a des métiers qui le permettent, pas tous.
Si vous êtes vendeur dans un magasin, c'est un peu compliqué de le faire à distance.
Voilà, mais pour tous ceux qui utilisent, en tout cas, le digital, c'est possible.
Je pense qu'il y a quand même un bon nombre d'entreprises sur Paris qui vont se rendre compte que, quelque part, une journée ou deux dans la semaine, si c'est bien encadré et bien structuré, le télétravail porte ses fruits. Il y a encore 3 ou 4 ans, on était moins chaud sur le sujet. Et cette grève-là...
Mais par la force des choses, voilà.
Oui, voilà.
Ça se fait. Mais enfin, le coiffeur, il ne peut pas couper les cheveux sur Internet.
Ça devient difficile. Bon, avec un tuto.
Oui. Je compléterais juste sur le fait
allez-y,
que...
Allez-y,
la flexibilité au travail est extrêmement importante et justement c'est aussi un tournant pour le monde du travail en France.
Oui.
Et en même temps, on sait aussi que on doit faire attention à faire preuve d'intelligence quant à la souplesse parce que les jeunes actifs aussi veulent créer du lien en entreprise et ne pas se retrouver aussi isolés du reste des gens. Et ça, c'est important.
Je vous remercie, vous restez avec nous, c'est pas terminé, on a encore une séquence, c'est j'ai envie de dire, the last, pas notre the list, comme disent nos amis anglais. Vous le savez, on donne un coup de pouce à une jeune pousse, on termine l'émission toujours, c'est notre espoir d'aider une jeune entreprise qui veut recruter, et on est ravis de le faire encore plus aujourd'hui, puisque Ségolène Moutarde, je le répète, est lauréate des trophées Médiarage 2019, c'était en novembre dernier, fait partie des 4-5 lauréats de nos trophées qui visent des start-up innovantes dans le domaine des ressources humaines. Alors vous allez découvrir cette entreprise parce qu'elle a besoin de recruter. Voilà, l'entreprise qui recrute.
BFM Business, le club Média RH, la start-up qui recrute.
Pourtant, votre point sur
bonjour, Ségolène M, c'est pas Ségolène R, c'est Ségolène M.
Bonjour Alexandre.
Ségolène Moutarde, comment allez-vous?
Ben, je vais très bien, et vous?
Ben, très bien, je suis content de vous revoir. Je rappelle, donc je disais au mois de novembre, j'étais là dans l'animation de ces trophées, ce qui est normal. Mais dites-moi, tout le monde a été bluffé par votre dynamisme. Préparez-vous, hein, Ségolène, c'est une tornade, hein, dès qu'elle se met à parler. Accrochez-vous. Hein. Bon, vous avez balayé tout ça. Bonjour Ségolène, bonne année, on vous souhaite le meilleur pour 2020. Vous êtes la cofondatrice de Team Starter. Vous nous dites d'abord en deux mots. Team Starter. En deux mots, ce que c'est. D'abord, bonne année. Bonne année, tous nos vœux, bien sûr, vous accompagnent. Alors, Team Starter.
Team Starter, c'est une plateforme de financement participatif qui est interne à l'entreprise et qui permet de donner le moyen à n'importe quel collaborateur de prendre des initiatives au sein de son entreprise. Donc concrètement, comment ça fonctionne ? C'est l'entreprise qui alloue un budget à tous les collaborateurs et avec ce budget, les collaborateurs vont pouvoir venir créer des projets ou aller financer les projets qui leur semblent les plus pertinents. Le but, c'est vraiment de redonner l'initiative au terrain à tous les collaborateurs d'une entreprise en leur permettant de facilement réaliser des projets au sein de leur entreprise.
Voilà pour la baseline, comme on dit. D'abord, on va redonner les chiffres, on les a vus à l'image, mais pour ceux qui nous suivent à la radio, date de création juin 2019, donc c'est vraiment tout jeune. Hein.
Tout jeune, oui.
Tout jeune, vous n'avez pas encore un an, mais vous êtes déjà 7 dans l'entreprise.
Tout à fait.
Vous, votre chiffre d'affaires, vous l'avez affiché de juin à juin, puisque ça date de 2018 à 2019.
Oui.
160 000 euros.
Tout à fait. En fait, depuis juin 2019, on fait 160 000 euros de chiffre d'affaires.
Les petits ruisseaux font les grandes rivières. Vous démarrez et on est ravis. Et 4 postes sont à pourvoir chez vous.
Tout à fait.
Félicitations.
Merci.
Vous créez de l'emploi. Alors, qui recherchez-vous ? On va le voir dans le détail. On est là pour vous aider.
Alors, on recherche 2 commerciaux et 2 personnes pour le suivi client, parce que nous, on est une plateforme digitale, mais ce qui est important aussi à comprendre, c'est qu'on accompagne tous les collaborateurs dans l'entreprise. Donc, on a une grosse partie d'accompagnement. Et donc, tout ça, il faut avoir des personnes qui font de l'account management, c'est-à-dire qui accompagnent les collaborateurs dans leurs projets et qui les aident à réaliser leurs projets.
Alors, 2 commerciaux, 2 responsables de suivi client.
Tout à fait.
Où ces postes sont-ils à pourvoir ?
À Paris. Nous sommes basés à côté de Bonne Nouvelle. Voilà.
Dans le centre de Paris.
Dans le centre de Paris, tout à fait.
Et alors, question classique et traditionnelle, il y en a plusieurs, mais la première, c'est toujours, bien sûr, je viens de le dire, hein, vous avez démarré vraiment votre activité, elle a décollé en 2019, en juin 2019. Avez-vous les moyens ? Parce qu'il faut des sous pour recruter des collègues. Il faut les payer. Alors, est-ce que vous avez des sous, ma chère Ségolène
M ? On a de la chance d'être rentable. C'est la deuxième entreprise que je crée dans cette entreprise, cette nouvelle entreprise avec Team Starter. On a décidé d'y aller doucement, mais sûrement. Donc, on travaille en co-construction avec tous nos clients. Ouais. Et donc, on recrute ces personnes-là parce qu'on a le moyen. On n'a pas levé de fonds. On n'a pas vocation pour le moment à lever des fonds. On a nos clients. Ça fonctionne très bien. On est en pleine croissance. On a une croissance mensuelle de plus de 30%.
Très bien. Sur vos fonds propres, donc.
Exactement. Sur nos fonds propres, exactement. Voilà.
Et vous leur dites quoi, justement, à ces 4 personnes, vous les avez, elles vous regardent, elles vous écoutent. Qu'est-ce que vous leur dites ? Venez chez nous, il y a du feu.
Non, on leur dit qu'effectivement, l'intérêt de venir chez Team Starter...
Quel est l'intérêt ? Vous avez compris ma question.
L'intérêt, c'est vraiment de faire plein de choses, parce qu'effectivement, c'est commerciaux et suivi client, mais chez nous, chez Team Starter, qu'on est une toute petite équipe, il faut travailler sur plein de sujets, sur la stratégie.
Mais c'est peut-être ça qui est passionnant,
d'ailleurs. Exactement. Donc,
on participe à toutes les décisions,
Décisions, c'est pour ça qu'aussi, nous, on a besoin de se retrouver dans les locaux, donc à toutes les décisions. En fait, les personnes qui nous rejoignent vont tout faire. Et surtout, on a une volonté de vouloir changer les choses dans les entreprises en permettant à tous les collaborateurs de porter des projets. Donc, ça, c'est, je pense, hyper intéressant, en tout cas.
Alors, on va peut-être, vous nous permettez de faire un round-up, vous nous permettez de faire une analyse de tout ce qu'on a évoqué dans cette émission avec Dominique Turc. Vous êtes d'accord qu'on est dans le poste digital ?
Oui. Oui, bien sûr que je suis d'accord. Moi, je rebondirais sur ce que vous avez dit avant.
Allez-y,
que effectivement, le télétravail, c'est bien. Donc, nous, effectivement, nos collaborateurs peuvent en faire. Mais il faut faire attention de pas trop, parce que nous, on est au début et on a énormément besoin de se retrouver. C'est important que les collaborateurs se connaissent.
Sûr,
justement,
raison.
Nous, on travaille avec Team Starter sur la cohésion, sur le fait de fédérer les équipes. Les collaborateurs ont besoin de se retrouver, de collaborer. Et quand même, c'est important
de coller les uns aux autres.
Exactement.
Et d'être là au quotidien, bien sûr.
Alors,
c'est le démarrage. En plus.
Et en plus, nous, c'est le démarrage.
Ouais.
Mais chez tous nos clients avec qui on travaille, donc une vingtaine de grandes entreprises, il y a des projets pour fédérer les équipes, justement.
Et sur le sujet, justement, évoqué avec Yves Hennekent sur l'alternance, c'est plus compliqué pour vous ou pas ?
Nous, on n'a pas d'alternant. Je sais qu'on pourrait en faire, mais il me semble que les coûts pour une start-up sont très élevés par rapport à des stagiaires.
Alors, je vais avoir une expression.
Là, vous êtes sur la sellette.
Team Starter, j'achète. Je ne sais pas encore si je l'achète potentiellement pour les équipes ou éventuellement pour les jeunes, pour les faire participer aussi à la construction de leur école.
Ouais, ouais.
Donc, il y a des choses à faire. Et de l'alternance, mais ce n'est pas l'objet du plateau aujourd'hui. ça coûte quasiment rien à l'entreprise. Après, c'est un mode dual de pédagogie, donc il faut accepter une semaine en école, 15 jours dans l'entreprise, une semaine dans l'école, 15 jours en entreprise. On va se revoir.
On va se revoir.
Ah, je sens qu'il a envie de vous convaincre.
Hein. Hop, je suis déjà convaincu du produit, donc je pense que je suis en train de tourner.
Vous voulez dire un mot?
Non.
Vous...
non.
Et enfin, d'une manière générale, vous avez entendu le classement de Hays, je disais, le classement de Hays, qu'est-ce que vous en pensez? Je ne sais pas si vous avez suivi de près.
Si, j'ai suivi.
Quand vous étiez derrière en régie, sur la mondialisation qui impacte plus les femmes.
Oui, alors sur le côté femme, moi je me sens pas forcément impactée.
Vous êtes là, vous.
Voilà. Mais c'est vrai qu'on parle beaucoup des inégalités hommes-femmes. Je pense que ça s'arrêtera quand on arrêtera d'en parler aussi. Ouais.
Mais est-ce que vous avez l'impression que ça évolue et que maintenant il faut plus se poser la question.
Moi, j'ai jamais eu un problème par rapport à ça. Ouais. J'ai toujours pu faire ce que j'avais envie de faire. Voilà, je pense que quand on veut, on peut.
Mais vous pensez qu'aujourd'hui on a dépassé ce stade, qu'on a dépassé le stade du digital? Il faut arrêter de parler de...
Moi, je pense qu'il faut... En fait, quand je viens, quand j'interviens quelque part...
Le message est passé.
Je pense que oui, parce que moi, quand je viens, quand j'interviens quelque part, on me dit, ça vous fait quoi d'être une femme? Mais quand on arrêtera d'en parler, tout ira bien.
Il y en aura le bol, quoi, pratiquement.
Je suis entrepreneuse,
il y a des... D'accord, il y en aura le bol.
Un peu. Moi, pour moi, voilà.
Ça y est, on a... Le sujet a été...
Ouais, c'est mon avis, c'est mon humble avis.
Bon, ben, on vous suit.
Voilà, ce qui compte maintenant, c'est la compétence.
Bien sûr, c'est la compétence.
Voilà, et l'envie de faire et le management.
Bien
voilà.
Sûr.
Alors, pour vous aider, on va donner l'adresse mail. L'adresse.
Mail, c'est tout à fait.
Votre mail.
Donc, hello@teamstarter.co.
Hello en anglais. Hello en anglais. H-E-2-L-O.
O, Teamstarter comme l'entreprise. Donc, T-E-A-M.
Starter, c'est Teamstarter.
.co.
.co.
Voilà, tout à
très
fait.
Très bien. Et votre 06? Non, c'est pas pour moi. Non. Vous ne donnez pas, c'est une blague. Voilà, je vous remercie à chacun.
Merci beaucoup.
Merci, bonne chance, ne bougez pas. Alors, je rappelle le livre de Dominique Turc, qui était notre invité témoin. Merci, Dominique, d'avoir eu la gentillesse de venir pour travailler à l'ère post-digitale chez Duno. Allez acheter ce livre. Merci à vous.
Merci beaucoup.
Yves, merci Yves and Kint. Et merci à vous, Walid, d'être venu témoigner. Voilà, c'est la fin de cette émission. On se retrouve la semaine prochaine, je vous promets, il y aura des emplois à pourvoir. Bonne semaine et bonne rentrée. Salut, bonne année.
BFM Business, le club Média RH, la parole aux entreprises qui recrutent.